Nous sommes le 29 août 2013. Je vais vous demander de vous présenter.
Eh bien, je m'appelle Raymond Théré et je suis né le 3 février 1934. J'habite La Grangerie, le hameau de la commune de Mongueux.
Vous êtes né où?
Ici, à La Grangerie, ici même dans la maison là-haut. Il y a 79 ans.
Vous êtes né par quel moyen, entre guillemets?
Ben, vous savez, comme le moyen de l'époque, hein, ma mère accouchait à la maison, et c'était une sage-femme qui accouchait les femmes enceintes. Hein. Et c'est pas comme aujourd'hui où on voit la maternité, bien entendu. Hein.
Vous aviez des frères et sœurs?
J'ai un frère, Jackie, et puis une sœur.
Et vous êtes où dans...
Moi, je suis le deuxième.
Et que faisaient vos parents?
La culture.
Ah bah il en a fait deux morceaux.
La culture.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire l'exploitation agricole. Ils avaient des vaches, avec des chevaux, bien entendu, à l'époque. Hein. Bon, jusque dans les années 50... jusque dans les années 60... on s'est marié en 62... Jusqu'en 58, on avait encore des chevaux ici, à la ferme ici. On avait encore des chevaux. Hein.
Alors, c'était quelle taille d'exploitation?
Oh, c'était pas bien grand, il y avait 40 hectares. Oui.
Et combien de chevaux?
Et 3 chevaux. 3 chevaux.
C'était pas mal, déjà.
Oui. Bon, puis après, ben, on a passé au tracteur, bien entendu, quoi, à la motorisation. Hein.
Et quand vous étiez petit, il y avait des bêtes aussi?
Ou oui. Des... Oui, oui, mes parents avaient des bêtes, tout. Et... Bien entendu, quoi. Et comme tous les hommes de l'âge de mon père, j'ai été mobilisé à la dernière guerre, comme de bien entendu. Alors ma mère a été obligée de prendre un ouvrier, quoi, un commis, bien entendu, pour le remplacer. Hein, fallait faire les travaux pareils. Alors, ce qu'il y a, c'est que mon père, à l'époque, avait 2 chevaux en 1939. Et la réquisition française lui en a pris un. En 1939, et en 1940, comme on a évacué, en revenant d'évacuation, les Allemands nous ont pris le deuxième. Donc il a fallu racheter des vieux chevaux qu'on trouvait à l'époque. Vous voyez que c'était tout un problème. Voilà. Et on a vécu tout pendant la guerre comme ça.
Et vous aviez 6 ans en 40.
J'avais 6 ans, oui. Et oui, je me souviens de la guerre, et puis je me souviens de... Enfin, je me souviens de l'évacuation et tout.
Vous vous souvenez quand votre papa a dû partir?
Oui, il avait été mobilisé à Dijon. Tout de suite là, Dijon, là. Je ne sais pas, c'était... Il me semble que c'était dans le mois de janvier, par là. Et puis après, ben, bien entendu... Mais il a eu la chance de ne pas être prisonnier. Alors, il a été libéré dans... quand Pétain a signé l'armistice avec les Allemands, dans les premières années de la guerre, en 41, là, 40-41, quoi. Comme ça qu'il est revenu. Bon, puis il a continué à faire la culture, quoi, comme de bien entendu, comme c'était à l'époque. Hein? Bon.
Et donc,
puis alors, moi, j'allais à l'école, à l'époque, je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans, à Massé, à pied. Et puis, à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone portable, les enfants. Vous voyez? Et on traversait les bois, sans être inquiété. Voilà. Bon. Et bien, puis sortant de l'école à 14 ans, eh bien, ma foi, j'ai aidé à mes parents, quoi. Hein? C'était comme ça.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme... Parce qu'ils avaient 40 hectares, il y avait quoi sur ces 40 hectares?
Eh bien, il y avait, comme en blâme, on avait du blé, de l'avoine, de l'orge, puis on faisait du seigle aussi à cette époque-là. Des graines de moutarde pour faire des engrais verts, des machins, ça. Et pendant la guerre, on faisait de la navette pour faire de l'huile. Eh oui, on faisait de l'huile de navette. Mais bien sûr. Et on allait faire ça à Villemort, oui. Oui, on allait faire ça à Villemort. Il y avait un homme qui nous faisait ça, l'huile de navette. C'était Broquet. On appelait broquet. Voilà, on faisait la salade à l'huile de navette. Pourquoi pas, hein? Bon. Alors, bon, bien entendu, il y avait les réquisitions à subir et tout ce qui s'ensuit, hein. Ben oui, les réquisitions, il y avait tant sur le lait, tant sur les grains et tout ce qui s'ensuit, hein. Faut les planquer. Oui. Et des tickets, bien entendu.
Ça se passait comment, les réquisitions?
Les réquisitions, eh bien, vous savez, ça c'est... Faut que je me souvienne un peu, hein. C'était des personnes qui s'occupaient de ça, qui s'occupaient des réquisitions.
C'était à trois?
Oui.
Par la préfecture, par quoi?
Oui, oui, c'était organisé, c'était la préfecture qui faisait ces choses-là. Comprenez-vous? Qui faisait faire ces choses-là, bien entendu, hein. Bon. Et puis on avait ben, les gens de la résistance, bien entendu. Oui, on en a eu ici, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si je peux vous dire ce qu'ils faisaient.
Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Au collabo. C'était les exécuteurs de la résistance. Ils étaient trois. Ils venaient au lait chez mes parents, mais enfin, mais bien entendu...
Hein? Mais ça, vous saviez ça à l'époque ou quoi?
Mon père le savait, que ces gens-là étaient destinés pour ça. Ils prenaient les renseignements au palais de justice et puis ils savaient les personnes qui avaient vendu les gants de la résistance, quoi. Puis c'était comme ça que ça se passait. Puis j'ai connu aussi à l'évacuation, alors là, c'était autre chose. Là, quand les Allemands arrivaient, on avait beaucoup de tirailleurs sénégalais. Les Allemands en avaient une peur terrible. Alors là, j'ai vu des choses un peu plus loin. Là, il y en avait 11 d'enterrés. Ici, à l'entrée du pays, il y en avait 3. Et puis les soldats français, un peu dans tous les coins. Enfin, pas tellement les soldats français. Et voilà comment ça s'est passé, quoi.
Vous les avez vus?
Oui, mais enfin, je ne veux pas vous raconter ce que j'ai vu. C'était la première fois que je voyais un homme mort. Ça vous fait une drôle d'impression. Un soldat, c'était un soldat, bien entendu.
Et c'était ici?
Non, c'était sur la route de l'évacuation, quand on a revenu. Ça barrait la route, il avait été tué, lui et son cheval. Bien entendu, il a fallu dételer les chevaux qu'on avait à l'époque pour dégager la route. Et après, c'était l'occupation. Alors, il y a une chose qui s'est passée. Bien entendu, les Allemands étaient installés dans toutes les fermes, dans tous les pays. C'était la Wehrmacht à l'époque. Et à l'époque, on était alimenté par des puits. On n'avait pas l'eau courante. Et dans les premiers jours qu'on est rentré de l'Exode, il y avait donc un groupe d'Allemands qui étaient au puits, qui tiraient de l'eau. Puis ils m'ont appelé. Alors je me demandais bien ce qu'ils me voulaient. Alors ils avaient un gobelet. Ils avaient tiré un seau d'eau. Ils avaient un gobelet. Ils ont pris un gobelet d'eau. Ils m'ont fait boire. Au cas si le puits avait été empoisonné. Vous voyez? Voilà. Comme ça s'est passé. Alors, on allait à l'école à Massé, les enfants. Alors, les Allemands, pendant la guerre, moi et ma sœur, bien entendu, puis des jeunes qui étaient des personnes qui étaient évacuées ici. Quelques personnes qui avaient des enfants de notre âge, quoi, comme bien entendu. On allait à l'école à Massé. Donc, le bois de Massé, là, il y a ce qu'on appelle la Grande Allée, qui donne sur le bois. Un matin, il y avait une sentinelle, toc, interdit de passer. Ah, on ne s'est pas répété deux fois pendant la guerre. Hein. Quand les Allemands disaient « faut pas passer là », on n'y passait pas. Et on a su par la suite que les Allemands présentaient des armes modernes et dans le bois là-haut. Et que c'était entièrement interdit, aussi bien les gens de Massé que de la Grangerie, de passer sur la route. Alors, quand ça s'est passé...
Et l'école?
Ah ben, d'école, on avait un instituteur, bien entendu. Alors, il n'y avait pas de cantine à cette époque-là. Hein? Alors, on emmenait le casse-croûte, et puis les livres d'école, quoi, comme de bien entendu. Hein? Et on mangeait à l'école, il y a une table, on mangeait à l'école avec les enfants des hameaux. Hein? Il y avait Mélie Le Vallon, il y avait tout ça. Et c'était la femme de l'instituteur qui nous faisait chauffer la casserole, la gamelle, quoi, et puis on mangeait comme ça. Alors l'instituteur, bien c'est là que j'ai appris quand même à lire et à écrire, et puis un peu à compter.
Il s'appelait comment ?
Monsieur Vineau. Il a passé... C'était lui, on a eu lui tout pendant la guerre. Et c'était quand ça n'allait pas, bien entendu, on avait droit à une correction. Qu'aujourd'hui, c'est interdit. Eh oui. Ah, ben oui, j'en ai eu comme les autres. Pourquoi pas? Hein? Bon. Ben oui, fallait bien. Hein? Ça faisait pas de mal. Aujourd'hui, ça ferait même du bien.
Vous étiez un peu dur?
Comment?
Vous étiez un peu dur, vous?
Non. Oh non, un peu... Un peu comme je... Un peu Jean-Foutiste, quoi. Ouais. Bon, mais voilà, quoi.
Enfin, vous êtes quand même allé jusqu'au certificat d'études.
Oui, oui. Oui, oui. Je ne l'ai pas eu. Bon, bon, enfin.
De toute façon, vous saviez ce que vous vouliez faire. Ou vous n'aviez pas le choix.
On n'avait pas le choix, hein. On n'avait pas le choix. Quand j'ai sorti de l'école, bon, aussitôt, allez hop, avec mes parents, et puis... Allons-y, hein.
Bon. Et vous aviez d'autres idées?
Pas du tout. J'en ai eu une, j'avais un peu, bon, c'est peut-être un tort que j'ai eu, remarquez, parce que j'ai fait 2 ans et demi de service militaire. J'ai été maintenu parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. J'ai eu la chance d'être dans l'aviation et j'étais au radar de Prunay-Belleville. Moi qui n'aimais pas l'école, j'ai été servi. Parce qu'il fallait apprendre le code anglais et tout ce qui s'ensuit. Si bien que... Bon. Et donc, j'ai été maintenu un an. Oui, on faisait 18 mois à l'époque, j'ai été maintenu un an. Qui faisait 2 ans et demi. Et j'ai toujours regretté, je disais toujours, de ne pas être... M'engager à Paris, là, comment on appelle ça, sur les aérodromes, les tours de contrôle. On avait des possibilités, si on avait voulu, en sortant de l'armée, là. Mais enfin, bon, c'était pas mon idée. J'étais de la campagne, j'étais de la terre.
Voilà. Donc, vous avez fait tout votre service à Prunay.
Voilà.
C'est loin, hein?
J'ai fait mes classes à Romilly. J'ai fait 6 mois d'école pour être au radar à Meaux, et je suis revenu à Prunay-Belleville. Voilà. J'ai participé à la guerre du canal de Suez en 56. Ah. On a descendu tous les opérationnels du radar, on a descendu à Lyon. 3 jours, non, qu'est-ce que je dis, 15 jours. Bon, puis ça s'est terminé en vitesse, parce que, bon, ça a été très vite, cette histoire-là, hein, que Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Alors, c'était en 56. Bon, puis après, on est revenu par la suite à Prunay-Belleville.
Et vous avez fait quoi là-bas, à Lyon?
Dans les radars, toujours dans les radars, seulement c'était des radars mobiles. Comme on avait tout de suite après la guerre, c'était pas le même radar que Prunay-Belleville. Parce que Prunay-Belleville, c'est un des radars le plus important qui protège toute la région parisienne, toute l'Île-de-France. Et à l'époque qu'on a été libéré en 57, on détectait déjà jusqu'en Allemagne de l'Est. Vous voyez que c'était très précis et très intéressant. Parce que on était des soldats. Mais on n'avait pas d'armes détitrées. On a eu une arme dans les mains quand on faisait nos classes. Après, les armes, on ne les connaissait plus que si on était de garde. Voilà, on n'avait pas d'armes. On travaillait au crayon. J'étais scribe VHF, alors il fallait tout comprendre. L'anglais, bien entendu, et pour le... On écrivait sur un cahier, mais on écrivait en français. Mais il fallait comprendre le code anglais. Voilà, donc j'ai retourné à l'école à l'armée. C'était pas tellement mon plaisir.
Et en 56, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au canal de Suez, par rapport à tout, c'était quoi le problème, le risque?
Eh bien, c'est-à-dire qu'ils avaient peur d'une invasion dans le sud de la France, une invasion de je ne sais quoi, je ne peux pas vous dire, je ne me souviens plus exactement. Et ils avaient descendu tous les opérationnels du radar ici, à Lyon. Voilà, pour être là-bas. On ne nous a jamais donné de détails, hein. Bien entendu. Hein. Bon, c'est tout. D'ailleurs, on n'avait pas intérêt, on avait des consignes. Quand on était au radar, on avait des consignes très strictes. Il ne fallait pas parler. Monsieur. On disait, quand vous revenez en permission, vous êtes chez vous. Si on vous interroge sur le radar, vous ne savez rien. Il ne fallait pas savoir comment ça marchait. Et on était dans le temps, à l'époque. On avait les Portugais qui venaient faire des manœuvres, on avait tous ces gens-là. Oui. Voilà.
Et tout à l'heure, vous parliez de l'école, mais l'école, donc vous êtes allé à l'école pendant la guerre, il y avait du changement? Est-ce qu'on vous parlait de Pétain? Est-ce qu'on vous parlait
je me souviens pas tellement, mais enfin, on a probablement appris Maréchal Nouvola.
Vous vous souvenez plus?
Comment ?
Vous vous souvenez plus ?
Non, je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que c'était un peu une obligation dans toutes les familles d'avoir le portrait du général Pétain à la maison. Et bien entendu, bon, ça s'est passé comme ça, quoi.
Et donc, il était à quel endroit dans la maison, le portrait du maréchal ?
Ah ben, normalement, il fallait qu'il soit visible, mais enfin, chez nous, il n'était pas visible.
Il était où ?
Il était dans la chambre où on couchait. Bon, que voulez-vous ? C'était comme ça, hein ? Eh oui, ben voilà.
Et vous aviez un peu de vigne, ou pas ?
De
vigne, pour la consommation.
La vigne ? Ah non, c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire, nous... La vigne, vous m'avez dit, oui.
Oui, vous en aviez ou pas un peu?
À quelle époque?
De vos parents, quand vous étiez enfant.
Mes parents en avaient une pour faire la boisson, pour faire leur boisson. Une petite vigne, il y avait 20 arbres. Oui.
Elle était où?
Au Ménil-Vallon, sur la commune de Massé. Oui, mais autrement, c'était le cidre. C'était le cidre. Mon père avait un verger, on faisait du cidre. On avait les batteries, à cette époque-là, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse, bien entendu. Hein. Bon, on allait battre 2 ou 3 jours de suite, par exemple, hein, pour battre la récolte, toute la récolte. Bon, il fallait donner à boire et à manger aux ouvriers, quand même. Ben oui, à l'époque, c'était le cidre. Voilà. Non, j'ai eu de la vigne à partir de... J'ai planté... En 66 ou 7. À partir de 67. De la vigne en appellation, bien entendu. Et à l'époque, comme j'avais un peu de culture, j'avais droit qu'à 10 arbres de plantation par an. Alors j'ai donc planté 10 arbres par 10 arbres, et puis je me suis retrouvé avec 2 hectares. 2 hectares et quelques heures, enfin 2 hectares en chiffre rond. Et puis voilà quoi. Après, j'ai quitté les bêtes, j'ai quitté la culture, et puis je faisais que les vignes. Jusqu'à 69 ans. Oui, à 69 ans, je montais encore sur un enjambeur. Parce que moi, j'ai eu la retraite à 60 ans. ma femme, qui est plus jeune que moi, elle n'avait pas de retraite. Donc, j'avais mis l'exploitation au nom à ma femme. C'est comme ça qu'elle s'est fait une retraite. Pas une bien grosse, quand de bien entendu. Voilà. Alors, on a exploité jusqu'en quelle année? 60... Je n'ai plus me rappeler. Francis, ça fait déjà bien qu'il pense ça. Mais non, t'as eu, quand tu as eu 60 ans, toi.
Eh ben, j'ai eu 60 ans en 5. En 42. En 2002.
Oui, en 2002, pardon. Bon. C'est mon fils qui a repris.
Votre fils?
Oui, Francis. Alors?
Et vous vous souvenez, vos parents, ce qu'ils faisaient exactement avec leur petite vigne?
Ah ben, automatiquement, c'était pour faire la boisson, c'était pour l'appellation. Hein? Bon, tout dépend de l'année. Bon, c'était du gamay à l'époque. Alors, on pouvait faire une bonne année, on pouvait faire une subvention 1000 litres de vin, une mauvaise année, on en faisait que 200. C'était comme ça, hein? Voilà. C'était une vigne qui était hors appellation. Parce que mes parents possédaient des terres en appellation, mais qui n'étaient pas plantées. Parce qu'à Montgueux, on avait l'appellation depuis longtemps, mais pour ainsi dire, personne ne pensait à planter de la vigne à Champagne. Il y avait que bien deux ou trois producteurs, dont il me semble Le Sachet, Beaugrand et Corniaud, Aristide Corniaud.
Et aujourd'hui, de ceux-là, il n'y en a plus aucun ou...
Ah, ben ils ont des... Bon, Le Sachet, ça a été vendu. Corniaud, c'est des descendants. Et puis Beaugrand aussi, bien entendu. Beaugrand, c'est un des plus grands viticulteurs de Montgueux. C'est tout ce qui existait à cette époque-là. Bon, puis alors, on a eu un Marnais qui est descendu à une vente de vignes, qui a acheté les fameuses vignes à Le Sachet, là. Puis on a dit, mais tiens, mais après tout, on pourrait peut-être en faire autant. Et puis c'est de là qu'on a eu l'idée de planter de la vigne en appellation Champagne.
Comment ça se passait les ventes à l'époque?
On vendait à des négociants. Comme toujours, moi j'ai vendu à les ventes de raisins. Moi j'ai toujours vendu à des négociants. Je n'étais pas, manipulant. Voilà, alors à cette époque-là, bon, on avait une équipe de vendangeurs, on vendangeait. Et puis on montait, à l'époque, on montait notre raisin à Montgueux chez Beaugrand. Il n'y avait qu'un pressoir à l'époque. Et c'était vendu, à l'époque, c'était vendu, il me semble que c'était vendu à Clicquot. On vendait à Clicquot, il me semble bien. Voilà. C'est comme ça que ça marchait. Et puis par la suite, mon frère, bien entendu, il était ouvrier agricole depuis qu'il avait... Ouvrier viticole, pardon. Depuis qu'il avait sorti de l'école, lui... À l'âge de 14 ans.
Donc votre frère, c'est
Jackie. Et comment je dirais, lui connaissait un peu le système, quoi. Et bon, il a commencé à planter de la vigne. Mon père avait des terres à vigne. On a donc commencé à planter de la vigne. Comme ça, la vigne en appellation. Et après, mon frère a eu un pressoir et j'allais chez lui. Et en dernier, jusqu'à la retraite de ma femme, on vendait à De Castellane, le négociant. Et puis maintenant, je ne sais pas où il en est, maintenant, je ne sais plus qui c'est.
C'est
où? Il me semble que chez qui vend un Moum, je ne peux pas vous dire. Il faut demander ça à mon neveu, il sait. Eric, il sait, lui. Puisque c'est lui qui s'occupe de ça, il a deux pressoirs, il ne faut pas tricher. Deux pressoirs, c'est lui qui s'occupe de ça. Voilà.
Et alors, le travail de la vigne, vous connaissiez déjà un peu ou pas, quand vous avez commencé?
À faire la vigne? Ah ben oui. Oui, je savais tailler quand même. C'était un voisin, une personne âgée, un voisin qui m'avait montré comment ça se faisait.
Qui ça? Vous vous souvenez de qui c'était?
Oui, c'était Charles Vetch. Oui.
Et il était vigneron?
Il avait travaillé dans la vigne, dans les vignes. Il avait travaillé chez Beaugrand. C'était un ancien cultivateur qui avait quitté la culture il avait un certain âge et il était embauché comme ouvrier vigneron chez Beaugrand. Mais il savait tailler la vigne, c'est lui qui m'a montré. Et a greffé les arbres. Parce que tous mes arbres, je les greffais. Les arbres fruitiers, bien entendu. Voilà.
Et pour. Donc, quand vous avez eu vos terres, elles étaient en friche ou il y avait de la culture dessus? Il y avait quoi?
Quand j'ai eu les terres pour planter de la vigne, ils étaient en culture. Alors, on a fait des échanges. Bien entendu, on a fait des échanges. Entre avec des étrangers, des voisins. Ou, j'avais un oncle, un grand-oncle, pardon, qu'on avait, tout ça, bon, qui était lui, ça ne l'intéressait pas. On a fait des échanges avec tout ça, comme ça. Bon. Et puis, il y a eu leur membrement. Alors, bien entendu, leur membrement, on a allongé les parcelles. Et je me suis retrouvé dans ma dernière parcelle plantée. Et ben, il y avait un talus qui faisait 2 mètres de haut. Et en haut, c'était que des épines. Bien entendu, au membrement, les épines étaient coupées, mais le talus, c'est tout de même moi qui en a fait les frais pour allonger la parcelle, pour pouvoir planter. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà.
Mais là, vous aviez déjà planté?
Ah oui, j'avais déjà dû planter. Oui, oui.
Mais alors, au départ, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même beaucoup de travail, puis ça donne rien au départ. Enfin, il faut quand même du temps.
3 ans pour donner. La vigne, on récolte au bout de 3 ans. Voilà, ma première récolte, c'était en 69. Sur 10 arts. Alors, l'année d'après, j'ai replanté 10 arts et ainsi de suite.
Et vous avez planté...
Parce que j'étais agriculteur. Voilà.
Il aurait fallu être vigneron, c'est ça?
Voilà. Voilà, il aurait fallu être viticulteur. Les ouvriers viticulteurs ou les viticulteurs, eux, avaient le droit de planter. Je ne me rappelle plus si c'est pas 40 arts ou je ne sais combien. Alors, après, quand j'ai eu un peu de plus de vignes, alors là, j'étais déclaré viticulteur, j'ai eu droit à planter 40 arbres. Après, on plantait 20 arbres, mais il y a eu un moment 40 arbres dans l'hectare, là, au motocross. Voilà, comme ça s'est passé.
Et vous avez planté, c'était plus du gamay à ce moment-là?
Ah non, c'était pas autorisé le gamay en appellation. Avant, oui, autrefois, le gamay était autorisé en appellation. Mais plus maintenant. C'est du chardonnay ou du pinot noir, bien entendu.
Comment vous avez choisi?
Parce que mon gueux était réputé pour le chardonnay, pour le raisin blanc. Alors pour le fait, mon gueux, c'est un petit, comment j'irais, une petite côte des blancs. Et c'est très recherché par les négociants marnais. Ils font un coupage avec, bien entendu. Alors on a donc planté du blanc. J'avais du noir aussi. Moi j'avais 20 arts de noir. Donc 40 arts, pardon. 40 arts. Voilà. Mais autrement, c'était du chardonnay.
Et donc c'est...
Alors greffé sur du 41B,
pardon.
Parce que ici, c'était du chardonnay, greffé sur du 41B, parce qu'ici on est des terrains calcaires. Et automatiquement, la vigne, elle n'aime pas le calcaire. Voilà, alors le 41B, c'est les racines qui courent à l'horizontale. Ça ne va pas en profondeur. Malgré que tous les ans, il faut leur faire un traitement quand même, ou séquestrer pour empêcher de verdir, de jaunir, pardon.
Voilà. Mais c'est les négociants qui vous incitent, qui vous ont dit il faut faire ça.
Ah ben oui, après que vous voulez, on avait affaire à des anciens vignerons quand même. Après, bon, qui nous donnait des conseils, on savait comment il fallait faire. Bon, moi, au début, je n'avais pas de matériel. Bon, c'est un homme qui était déjà installé depuis quelques années, qui avait un tracteur qui faisait mes sulfatages, qui faisait mes binages. Bon, puis par la suite, moi, j'ai acheté un tracteur. Bien entendu. Et puis, ma foi, après, c'était moi qui faisais mes sulfatages, mes traitements, comme tout le monde fait aujourd'hui.
C'était une époque où on mettait beaucoup de choses dans la terre, sur les...
Bon, on mettait des sulfatages, mais... Bon, d'ailleurs, ça n'a rien changé. Hein. Bon, une année humide, on va aller jusqu'à, par exemple, une dizaine de sulfatages, contre le mildiou et tout ce qui s'ensuit. Bon, autrement, c'est des traitements habituels, hein, qui ont toujours existé. Bon, parce que mon gueux, autrefois, il y avait de la vigne, il y avait beaucoup de vigne, mais c'était de la vigne. Ce n'était pas de la vigne en appellation champagne. C'était de la vigne, de la boisson, pour faire de la boisson. qui a été détruit par le phylloxéra. Et c'est donc, et Beaugrand en avait déjà à l'époque, avant le phylloxéra.
Mais ça, c'est vous avez connu vos grands-parents?
Mes grands-parents, oui.
Eux, ils avaient aussi de la...
Pas du tout.
C'est vos
parents? Mon grand-père était berger en Seine-et-Marne.
Où ça?
À 9 km de Nangy. À La Croix-en-Brie. Bon, mais j'étais originaire de l'Aube. Et puis mon grand-père maternel, je ne l'ai pas connu, il est mort quand je suis venu au monde, bien avant que je vienne au monde. J'ai connu ma grand-mère maternelle. Voilà. Et elle se rappelait, parce qu'elle était native de Montgueux, elle se rappelait avoir vu des vignes dans bien d'endroits qu'aujourd'hui il n'y en a plus, bien entendu. Oui.
Et c'est elle qui vous a parlé un peu du phylloxéra, de toutes ces choses-là?
Oui, mais enfin, bon, j'en ai appris pas mal quand même. Parce que je lis beaucoup. Je vous dirais que le phylloxéra, la première commune qui a été atteinte dans l'aube du phylloxéra, c'est Coursan-en-Othe, le dernier pays avant Lyon. Et c'était des vignes à boisson. Ce n'était pas des vignes à l'appellation. Et puis ça s'est répandu, cette épidémie-là s'est répandue dans tout le département, quoi, comme bien entendu. Mais moi, je n'ai jamais connu la révolte des vignerons comme il y a eu à Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine.
Ça, votre grand-mère, elle ne vous a pas dit ça?
Ah non, elle n'a pas connu ça. Parce que, je vous dis, ici, le pays, c'était... Montgueux, c'était pas de la viticulture, c'était de la culture. Il y avait de la vigne pour la boisson. Voilà. C'est comme ça que ça marchait.
Et vous alliez pour la... Du temps de vos parents, vous alliez dans vendanger
ou... Ah ben oui. Ben oui, ça nous faisait la pièce, hein, les jeunes. Ben bien sûr, on allait aux vendanges. J'allais aux vendanges chez Gonnet. Ma femme, elle allait chez Beaugrand, mais on n'était pas mariés à l'époque. Bon, j'allais aux vendanges chez Gonnet et j'étais porteur de panier. Alors, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein,
c'était quand, ça?
C'est dans ces années-là? Oh, c'était dans les années 50, 59-60, par là. Hein. Oui. Et alors, les paniers, c'était des paniers en bois. Aujourd'hui, tout est en plastique. Et il n'y avait pas de caisses en plastique, c'était des caisses en bois. Bon, et alors, comme cet homme-là avait des vignes ici, mais que c'est un marnais, tout le raisin partait dans la Marne. Donc, le soir... Alors, j'étais porteur de panier avec un copain, et le soir, il descendait le camion de la Marne, on avait fait notre journée, parce qu'il fallait courir, on ne mettait pas les caisses dans les rangs comme on met aujourd'hui. On les mettait, ce qu'on appelle, dans les coupés. Bon, et quand les caisses avaient déjà servi 5 ou 6 jours, ils étaient renflés, ils étaient très lourdes. Bon, et le soir, il descendait le camion qui venait de la Marne, et on avait... 80 à 100 caisses de raisins chargées. Vous voyez? Bon. Et on avait, les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Hein? Oui.
C'était voilà.
Quoi,
c'était
et on n'était pas nourris. Hein? On emmenait notre casse-croûte.
C'était la journée?
Ah oui, c'était la journée, oui. La journée, oui.
Ah, le casse-croûte n'était pas...
Ah ben, pas du tout. Non, il n'y avait pas de casse-croûte, pas plus. Le matin, on arrêtait un quart d'heure, mais... Bon, celui qui emmenait son casse-croûte, il creusait la croûte, mais celui qui n'en avait pas... Et le midi, ben, on s'assoyait sur un talus. Quand il pleuvait pas, parce que, bon, il y avait une cabane, mais elle n'était jamais assez grande pour mettre tous les vendangeurs, hein. Bon. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Bon, tandis qu'aujourd'hui, bon, il faut avoir une cabane pour mettre les ouvriers à l'abri, c'est tout à fait normal, pour manger le midi. Une trousse pharmacie et tout ce qui change juste, ce qui est tout à fait normal. À l'époque, tout ça, ça n'existait pas. Hein? Oui, c'était comme ça. Et on était contents, on était heureux, on ne se plaignait pas.
Et vous n'avez jamais eu envie de vinifier?
De?
De vinifier.
Non. Non, parce qu'il fallait que je fasse une cave. Et moi, je n'avais pas une culture assez importante. Je n'avais pas assez, J'avais pas assez de finances pour ces choses-là. J'étais bien plus tranquille de livrer à des négociants. J'étais payé tous les trois mois, comprenez-vous, et moi, ça m'arrangeait. Voilà, je préférais comme ça. Autrement, il faut une cave, comme voilà, mon frère avait fait faire une cave, un pressoir et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça, c'est des frais. Celui, mon frère, se retrouve tout de même avec 6 ou 7 hectares, lui, hein. Alors, c'est pas avec 2 hectares qu'on peut se permettre de faire une cave, d'acheter un pressoir et tout ce qui s'ensuit. Non, j'étais bien plus tranquille. D'ailleurs, mon garçon fait pareil. On est bien plus tranquille de vendre à un négociant. Voilà.
Et donc, sur la fin, qu'est-ce que vous avez fait de votre exploitation agricole ? Vous l'avez...
Eh bien, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de terres qui étaient en location. Alors, je les ai rendues, bien entendu. Bon, ceux que mon père possédait, mes parents possédaient...
40 hectares.
Oui, on cultivait en gros 40 hectares à l'époque. Et ceux que mon père avait, bon, ben, ça nous a été partagé en trois. Hein.
Oui.
C'est ma sœur, mon frère, bien entendu. Puis voilà, quoi. Et alors, on a quitté les bêtes, on a quitté... C'était un soulagement. C'était un soulagement, parce que quand on avait les bêtes, il fallait faire du fourrage, il fallait faire de la paille, il fallait faire des betteraves, tout ce qui s'ensuit, hein. Ou du maïs. Alors, bon, j'ai quitté tout ça, puis terminé, on n'avait plus que la vigne. C'était déjà un soulagement. Bon, c'est du travail quand même. Alors, bon, je prenais des ouvriers quand c'était le palissage, bien entendu. La taille, oui, il y avait un gars qui me l'aimait de temps en temps, tout ça. Et puis les vendanges, quoi, on prenait les... vendangeurs. Bien souvent les mêmes. J'avais une bonne équipe en général. C'était toujours à peu près les mêmes. C'était des gens de connaissance.
Alors, faut les chouchouter pour qu'ils reviennent?
Non, j'étais habitué à la maison. Tout allait très bien. Par un moment, j'ai eu une équipe, c'était des gars du chemin de fer. Ils prenaient des congés, puis tous les ans, j'avais ces gens-là. C'était des braves types. Et ça allait bien. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec ces gens-là, jamais, jamais. Pas plus qu'avec les autres, hein. Moi, j'étais pas un non-cliquineur.
Et vous avez donc, vous avez racheté un peu ensuite, ou vous aviez suffisamment et vous avez
Non. Non, mon père avait 4 hectares de terre en appellation, on a partagé ça, moi et mon frangin. Et mon frère, chacun 2 hectares. Mon frère, lui, par la suite, il a racheté. Mais moi, j'ai conservé mon... Comme c'était... Je suis tout de même 10 ans plus âgé que lui. Et bon, j'avais travaillé très jeune. Donc, ça me suffisait. Voilà. Voilà.
Et quand vous avez commencé dans les années 60, ça n'avait pas... La parcelle n'avait pas la valeur d'aujourd'hui.
Hélas, non. Pas du tout. On était loin. Vous savez, il y a des gens qui ont échangé des terres qu'ils avaient en appellation pour prendre des terres en culture. Hein, puis après, c'était terminé quand c'était parti. Et oui. Je voulais. Non, ici à Montgueux, on a planté assez tard. Aurait fallu planter plus tôt. Mais on n'y pensait pas. On avait une zone d'appellation, on n'y pensait pas. Vous voyez ? Enfin, le vignoble de Montgueux est connu quand même, il a une bonne réputation.
Il avait la même réputation auparavant ?
Ah ben non, c'était les vins de table. Bon. Non, on a la réputation, parce que je vous dis, c'est un territoire où, en général, il y a les trois quarts sont du blanc, du raisin blanc, du chardonnay. Le noir, il y en a quelques-uns quand même, mais pas beaucoup.
Mais pourquoi vous avez mis du noir, ou pourquoi vous avez mis du pinot noir ?
Parce que le noir ne fait pas du si bon champagne que le blanc. Le noir, on s'en sert pour comment, faire un coupage, pour faire du rosé. On peut faire du champagne uniquement avec du noir, mais c'est pas pareil. Et puis alors ici, on est un terrain, on n'est pas dans le Barcécanais ici. Dans le Barcécanais, le raisin noir mûrit beaucoup mieux. Tandis que nous, il reste rosé. Il n'est pas noir, il reste rosé. C'est le territoire, c'est le terrain.
Si votre neveu, il fait une cuvée qu'avec du noir.
Oui, mon neveu, il a une... Oui, mais du noir qui vient de Celles-sur-Ours. Hein? Ici, il en a, je ne sais pas s'il en a encore. Oui, il en a un peu aussi. Bon, il fait un coupage. Voilà.
Et passer de la culture à la viticulture.
Oui.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Quels sont les changements?
Mais, c'est-à-dire, on avait quand même moins de mal. On avait moins de mal en viticulture que dans la culture. Bon, dans la culture, quand c'était la moisson, bon, moi j'avais une moissonneuse-batteuse, comme bien entendu. C'était ma femme qui charriait le grain. Et on le mettait en cellule et tout ce qui s'ensuit. Bon, et puis après, bon, il fallait s'occuper de livrer ça, de... Bon, et puis quand on avait encore des bêtes, c'était le fourrage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en viticulture, on avait uniquement que la vigne à s'occuper. Hein? Bon, bien entendu, tant que c'était des plants, on avait la binette. On y allait la binette. Hein? Les écologistes, à cette époque-là, auraient été heureux de nous voir. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, les écologistes, que de se servir d'une binette. Mais si ça n'avait servi aux gens, moi, je m'en suis servi, monsieur. Croyez-moi, ils ne seraient peut-être pas écologistes.
Il n'y avait pas de cheval à l'époque?
Ah, ben si, ben. Dans les vignes, à Montgueu, non, c'était rare. Il y avait le roi, mais c'était pas en appellation, hein. C'était de la vigne à boisson. Ils avaient un homme qui leur faisait leur vigne, ils avaient des chevaux. Bon, ils passaient la vigneuse, mais c'était pas des parcelles comme aujourd'hui. C'était des parcelles de 10 arts, ou 15 arts, ou 20 arts, des choses comme ça. Comprenez-vous? Bon, mais moi, dès que j'ai eu de la vigne, c'était un homme de Montgueu qui me passait la bineuse, l'enjambeur et tout ce qui s'ensuit, la rogneuse et tout. Ah ben, bien sûr, moyenne en finance, hein. Bon, c'est tout à fait normal.
Avant que
j'achète un tracteur, bien entendu. Quand j'ai acheté un tracteur, là, j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait avec.
Et le prix au kilo du raisin que vous vendez, il a aussi changé
Oui. Oui, quand même. Vous savez, j'ai plus en tête, hein. Mais enfin, bon, oui, il y a eu quand même une évolution. Il y a eu quand même une évolution. Et même aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est revendu. Je pourrais pas vous dire un prix, hein. Ce serait une idiotie, hein.
C'est plus l'évolution, parce que dans les années, vous avez commencé en...
Moi, ma première récolte, je l'ai fait en 1969.
Donc, c'était pas encore le boom.
Non, mais c'était nos raisins, mon gueux, étaient déjà cherchés par les négociants. Donc, ils nous donnaient une prime pour avoir le blanc, en plus du prix. Ça, bon, ça augmentait un peu, mais je pourrais pas vous dire le prix, ce serait vraiment...
Mais ça vous a permis de faire des investissements quand même.
Ben exactement. Exactement. Comprenez-vous? Voilà. Et comme ça.
Et donc, combien vous avez d'enfants?
Trois.
Et tous, ils ont été intéressés pour continuer?
Non. Non, non. J'en ai une qui travaille, qui est à Tsem. J'en ai une autre qui travaille à la Chaillotine, à Chaillet. Puis mon garçon qui a repris les vignes. Parce que j'ai fait mes successions. Et bien entendu, ils ont leur part. Mais enfin, c'est mon garçon qui les a en location.
Parce que... C'est vrai que le prix de la parcelle en 60 et quelques,
9.
Quand vous avez eu vos parcelles, et aujourd'hui, au niveau de la succession, c'est pas du tout la même.
Ah, pas du tout pareil. Pas du tout pareil.
Et comment ça s'est passé? Ça a été un peu un casse-tête, non, pour vous?
Non. Comment ça? L'augmentation du prix?
Non. Pour la succession.
Pour les terres? Sur les terres aujourd'hui, monsieur. aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien ça vaut. Hein. Puis vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus le petit vieillon qui les achète. Hein. Il y a des grosses maisons qui descendent de la Marne et puis qui mettent la main dessus. Hein. Sans, vous savez...
Mais le problème de la succession.
Ah, alors là, ça c'est autre chose, monsieur.
Non, dites-moi.
Ça c'est autre chose. Moi j'avais 2 hectares, j'ai 3 enfants, il fallait déjà intervention de géomètre. Les géomètres ne travaillent pas pour rien. Bon, et ensuite, eh bien le notaire, c'est le notaire qui a fait les successions, bien entendu. Et, mais c'est moi qui ai payé. Hein. Ah oui. Oui, parce que j'ai mon garçon, on a fait un grand bail à mon garçon. Comprenez-vous? Alors ça nous a diminué les frais. Une chance. Autrement, c'était plein pot. Voilà. Comme mes filles, ça ne les intéresse pas, ils ont leur travail, mais ils ont leur part de vie. Ils en font ce qu'ils voudront par la suite. C'est leur problème. Voilà. On a même un projet, enfin, qu'on ne verra, je ne sais pas si je le verrai, d'extension de l'appellation Champagne. Alors, ça, je ne sais pas si on verra ça. Et dans cette extension, qui se trouve là, vous voyez, le bois là-haut, toutes les parcelles en bas, là, depuis la route de Massé jusqu'à Fontvanne, ce serait en pourparlers de mettre en appellation. Et moi, dans cette partie-là, j'ai 1,20 hectare. De terres en culture, bien entendu, c'est toujours des terres en culture. Et j'ai donné ça à mes enfants en indivis, avec les frais de terres en culture. Que si un jour ça passe en appellation, c'est déjà une chose qui est pas mal pour eux. Voilà.
Et personne n'est venu vous voir pour...
Ben, moi, personnellement, j'ai vu personne. Mais il y a eu des gens... Je ne citerai pas les noms, de l'Aube, qui ont venu ici au pays pour avoir des terres, pour déjà bâtir un hall, des terrains à bâtir. Comprenez-vous? Bon, mais ça n'a pas marché. Mais moi, on ne s'est pas adressé à moi. Hein. Il avait acheté aussi à Fontvanne, cet homme-là. Bon, mais... L'extension de l'appellation Champagne, on n'est probablement pas pour l'avoir tout de suite. Croyez-moi. Et il n'y aurait rien de drôle que ça a causé certains problèmes dans les familles, dans certaines familles. Que les affaires avaient été faites et puis, ben oui, mais dis donc, mon frère, il a 15 hectares en appellation, moi, j'ai que 15 hectares en terre en culture, etc., etc. Et, paraît-il que ça... Il y a des familles que ça a causé beaucoup de problèmes. Une chose qui n'arrivera peut-être jamais. Si vous savez les promesses. Hein. Oui. Ah voilà.
Mais vous dites que vous avez arrêté il y a 10 ans. Mais donc vous n'allez plus dans les vignes.
Ah ben, c'est-à-dire que je n'ai plus de mobilité. Je marche avec des béquilles. Bon, ben, de temps en temps, si, on va dans les vignes. Enfin, bon, je passe au bout, je regarde comme ça, mais je ne peux plus me rendre compte à l'intérieur de la vigne comme c'est, bien entendu. Oui, ça fait déjà 2 ans comme ça.
Sinon, avant, vous
aviez... Ah ben avant, oui, on allait encore, on allait enlever les agrafes, après, ça nous passait le temps, hein, on y allait 1 heure ou 2 dans l'après-midi comme ça. Maintenant, je ne peux plus du tout... Plus rien faire, je suis... Ah ben, ah oui, je venais le corps, je retourne en danger. Ah, maintenant, c'est fini pour moi. Ouais. Enfin, j'y vais toujours un peu près quand on m'emmène. Je fais plus conduire, bien entendu. Oui. Mais enfin, j'aime bien savoir le travail des vignes. J'aime bien savoir ce qui s'y passe. Encore le midi, on discutait avec mon garçon, on parle d'une chose, on parle d'une autre. Bon, en ce moment, il y a une place qu'il y a une attaque d'odium. Bon, et puis comment la maturité se présente. on commence à voir que les noirs, comme on dit, que les noirs commencent à mêler, c'est-à-dire à changer de couleur. Hein? Bon, il n'y a pas de jour qu'on ne discute pas de vigne.
Et vous vous sentez plus cultivateur ou viticulteur?
Ah non, viticulteur. La culture, vous savez, je l'ai quittée sans regret. Croyez-moi, on en avait ras-le-bol. Hein? Moi, je vous dirais même que j'allais apprendre des bêtes en pension à un marchand de vaches, quoi, des Vosges, l'hiver, pour me faire de l'argent, et puis en même temps, on avait le fumier. Oui, ben, on n'en arrêtait pas d'une minute. Dans la culture, on n'en arrêtait pas d'une minute. Parce que quand on a eu les vignes, alors là, on a quand même commencé à souffler. C'était un autre travail, c'est sûr. Ça fait mal aux reins. Hein? Mais enfin, que voulez-vous? Hein? C'était comme ça. Alors, je veux dire, on prenait des gens pour pâtisser, tout ce qui s'enfuit, et puis aux vendanges. Et puis alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de broyeur à sarments. Hein? On brûlait les sarments. C'était pas une mauvaise... Enfin bon, c'est pas tellement recommandé aujourd'hui, toujours pareil, une raison d'écologie. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était une chose qui était bien, parce que les bois qui étaient malades, eh bien, automatiquement, ils passaient au feu, c'était terminé. Dès qu'aujourd'hui, le gars qui va tailler, un pied malade, par exemple, on a de l'esca, les pieds d'esca, c'est le pied de vigne qui meurt par la suite. C'est comme un genre de phylloxéra, mais pas tout à fait pareil, ça va moins vite. Eh bien, les gens qui viennent à la tâche ou n'importe, qui s'en moquent totalement, toc-toc, ils vous mettent le sarment par terre, l'eau, on passe, on boit, et allez, on répand la maladie. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui y pensent à ce truc-là. Bon, puis vous avez les gens qui font du bio.
Alors, vous en pensez?
Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, monsieur, c'est dommage que je ne vous citerai pas de nom non plus. Mais on a une personne ici, et non, il n'y a pas d'ici. Hein. Alors, c'est affreux à voir. Les vignes toutes jaunes, il n'a pas besoin de passer des feuillages pour vendanger. De l'herbe aussi haute que les treilles. Et puis des raisins qui sont gros comme des groseilles. Et c'est à l'oucet entre nous. Le bio en Champagne, et puis, paraît-il, c'est un gros baratin, ça. Parlez. Enfin, que voulez-vous? Si, il y a une chose, quoi, c'est qu'ils vendent leur champagne plus cher. Au lieu de vendre, par exemple, au lieu de récolter, par exemple, 15 000 kilos à l'hectare, ils vont en récolter que 8 ou 9 000. Mais il faut voir le travail. Il faut voir le travail. Vous savez, elle mérite d'être vue, hein. C'est pas beau dans le vignoble. Je vais autant vous dire que les voisins, ils en ont de la graine de chardon et tout ce qui s'ensuit, hein. Que voulez-vous? C'est comme ça aujourd'hui.
Quand vous regardez autour de vous aujourd'hui et quand vous étiez enfant, le paysage a quand même drôlement changé.
Ah ben, alors là, totalement. Totalement, totalement. Parce que, bien entendu, moi j'ai connu ici, il y avait des friches dans tous les coins. Des haies, des carrières, des tout ce qui s'ensuit. Bon, il y a venu l'Hermont-Bremont. L'Hermont-Bremont rasait tout ça. Nous, ici, à 40 hectares, monsieur, on a eu droit à 7 remontrements. Ben, croyez-vous qu'on en a ras-le-bol? Hein? Bon. Le premier, on l'a eu sur la commune de Torvillers. Comme on est des fins de finage, ici, automatiquement, on avait des terres sur Torvillers, Meusson, Massé et Mongueux. Bon. Alors, le premier, c'était sur Torvillers. Le deuxième, c'était Meusson. Le troisième, c'était Massé. Bon. Et le quatrième, ici, on en a eu un ici, le dernier qu'on a eu ici. Mais avec les vignes, ça n'a pas été... C'était pas tout à fait pareil avec les vignes, parce qu'on ne peut pas couper des vignes, on ne peut pas donner des vignes. Hein. Bon, alors bon, c'était à peu près dans les vignes. Hein. Et comme c'est un vignoble qui a été planté, assez tard, on avait prévu un peu le truc. Comprenez-vous? Bon, ne parlons pas des vignes. Mais alors, l'été en culture, c'était affreux. Alors, on a eu le droit à l'autoroute qui passe à 1 km d'ici. Sur Meusson, ils ont fait des extensions de remembrement. Meusson, Torvier, Massé. Alors, deux remembrements. Deux remembrements à Torvier, deux remembrements à Meusson, deux remembrements à Massé et un à Mangueux. Alors, sur Massé, on s'est trouvé avec des champs qu'on avait, par exemple, à 200 mètres du pays. Bon, on s'est retrouvé à 220 mètres, une soumission. Et puis, au deuxième remembrement, eh bien, les gens qu'on nous avait éloignés, ben, on nous les a remis ou qu'on les avait le premier coup. Alors, c'est vraiment... Hein? Alors, ces remembrements-là... Vous voyez, jusqu'ici, là, la terre que vous voyez là à côté, ça a été remembré. On a mis juste ici. Parce que la terre que vous voyez là, c'est Massé. Les deux maisons qu'il y a là-bas, c'est Massé. Les finages, c'est comme ça. Hein. Il y a une frontière. Bon, et ici, c'est Mangueux. Vous voyez le travail. Il y a de quoi tomber fou.
Et il n'y avait pas autant de vignes quand vous étiez enfant?
Ah non, 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 non. Il n'y avait que de la vigne pour la boisson. Hein. Chacun avait sa petite vigne pour faire sa boisson.
Qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel?
Mais rien. La binette et la pelle à rayonner, l'hiver. Mais oui, c'était ça. Une pelle spéciale, tiens, j'allais aller encore par là, la mienne. Une pelle au carré, puis toc. On versait un coup à droite, un coup à gauche. On butait les vignes. On butait les vignes. Voilà, et puis alors, ben, au printemps, ben, on prenait la vignette, on les débutait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne bute plus les vignes, c'est terminé. Elle n'existe plus. Et c'est ce qui empêchait la gelée. Quand il faisait des gelées au mois de mai, la gelée, elle descendait toujours entre dans ces profondeurs-là. Comprenez-vous? Bon, ça évitait. Bon, ça ne réussissait pas toutes les fois, mais bien souvent. Bon, c'était le truc de l'époque. Bon, la vigne que mes parents avaient, ça appartenait à un grand-oncle. Et c'était son système. Il faut buter les vignes pour éviter la gelée. Voilà. Ça marchait comme ça.
Et après, ils faisaient la vinification.
Oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pour le faire?
Eh bien, ils mettaient cuvée, hein, bien entendu, pour faire du vin rouge.
Donc, ils avaient une cuve?
Ben oui, dans des, on appelait ça des mûs à l'époque. On appelait ça des mûs, vous savez, les gros tonneaux qui font 1000 litres. Alors, ils mettaient, ou alors des cuves. Ils mettaient cuvées, puis quand ça se met à bouillir, ben, il est passé au pressoir, et puis ça y était. Alors, il y avait un homme dans le pays, comme là, ma femme, c'était son grand-père, à Médivallon, là, qui faisait le vin pour Pierre, pour Paul, qui avait une vigne. C'est comme ça que ça marchait. Voilà. Mais c'était, je vous dis, c'était la boisson. C'était ça et le cidre. Il y avait les deux. Oui. Alors ces vignes-là, bon, ben, petit à petit, hein, il n'y a plus de propriétaires, les propriétaires sont morts, ça a été vendu, ça a été arraché, on a remis ça en culture, et puis c'est terminé, où il n'y a pas l'appellation. Bon, ben, autrement, les vignes qui se trouvaient dans la zone d'appellation, ils vendaient pas en appellation, les gens, ils faisaient leur boisson avec, bon, ça a été supprimé, et puis le gars, bien entendu, il a vendu ça, les personnes, ils ont vendu ça pour planter de la vigne en appellation. Ou changer, ou donner à leurs enfants, hein. Si vous voulez. C'est comme ça que ça s'est produit. Voilà.
Très bien.